Chapitre 50. Chelsea, 1992. Ma mère ne se remit jamais d'avoir perdu son bébé. Elle se retira progressivement de la vie de notre communauté. Elle prit ses distances avec David. Elle commença à passer plus de temps avec mon père, restant assise à ses côtés en silence. Bien entendu, je me sentais complètement responsable du malheur de ma mère. Je me mis à lui concocter des remèdes contre la mélancolie trouvée dans les livres de Justine, mais il était impossible de lui faire avaler quoi que ce soit. Mes efforts ne servaient à rien. David semblait l'avoir tout à fait abandonné, ce qui me surprenait. Je m'étais attendu à ce qu'il s'implique dans sa convalescence, mais il se montrait très distant, glacial. Un jour, peu de temps après la mort du bébé, j'eus une discussion avec lui. « Pourquoi est-ce que tu ne parles plus à ma mère ?» lui demandai-je. Il soupira. « Ta mère a besoin de trouver sa propre voie vers la guérison. » Sa propre voix. Un sentiment de fureur m'envahit. Je n'ai pas l'impression qu'elle guérisse du tout. Elle va de moins en moins bien. Et mon père, tu ne crois pas qu'il a besoin de soins médicaux? Tout ce qu'il fait, c'est végéter dans son fauteuil toute la sainte journée. Peut-être qu'à l'extérieur, quelqu'un pourrait lui venir en aide. Une thérapie, ou des chocs électriques, peu importe. Il y a probablement des tas de nouvelles techniques pour soigner les gens qui ont fait des AVC. « Mais on n'en sait rien, parce qu'on est coincé ici !» Je m'étais mis à crier sans m'en rendre compte, et quand ces mots quittèrent ma bouche, je sus immédiatement que j'avais dépassé les bornes. La froideur cinglante et la puissance de sa main m'atteignirent en pleine face. Je sentis le goût métallique sur ma langue, un engourdissement dans mes lèvres. Je vis le sang au bout de mes doigts après avoir touché ma bouche et levé les yeux vers David, horrifié. Il me regardait de haut, ses larges épaules soulevées, une veine palpitant à sa tempe. La vitesse à laquelle cet homme calme et spirituel pouvait se transformer en monstre de violence dépassait l'entendement. « Tu n'as aucun droit de parler de ces choses-là, » grogna-t-il. « Tu ne sais rien à rien. Tu n'es qu'un enfant. »«
Mais c'est mon père. Et depuis que tu es arrivé, tu le traites comme de la merde. »
Sa main s'abattit à nouveau sur moi, cette fois sur mon autre joue. Je savais que cela devait arriver. La première fois que j'avais vu David Thompson, j'avais su qu'il n'hésiterait pas à me frapper si je m'opposais à lui. C'était inéluctable.
« Tu as tout gâché !»
poursuivis-je, persuadé désormais que je n'avais plus rien à perdre.
« Tu te prends pour quelqu'un de tout-puissant, mais tu ne l'es pas. T'es une brute, c'est tout. Tu es arrivé ici et tu as terrorisé tout le monde jusqu'à ce qu'on devienne tes esclaves. Ma mère est tombée enceinte de toi et maintenant elle est triste, et tu n'en as strictement rien à faire. » Parce que tu ne penses qu'à toi. »
Cette fois, il me frappa si fort que je m'écroulai au sol.
Lève-toi. Lève-toi et va dans ta chambre. Une semaine d'isolement, voilà ce que tu mérites.
Tu vas m'enfermer? Parce que j'ai osé te dire la vérité en face?
Non, gronda-t-il. Je t'enferme parce que tu me dégoûtes tellement qu'il m'est insupportable de te voir. Alors, tu vas tout seul ou je te traîne, hein?
Je me relevai et me mis à courir. Mais pas en direction de l'escalier, en direction de la porte d'entrée. Je tournais la poignée et je poussais. Et j'étais prêt, prêt à fuir, prêt à interpeller un passant et à lui demander de nous aider, de nous sortir de la maison où nous vivions sous la coupe d'un tyran.
« À l'aide !»
Mais la porte ne s'ouvrit pas. Comment ne m'en étais-je pas douté? Je tapais et tapais dessus, puis me retournais vers David.
« Tu nous as enfermés ?»«
Non, la porte est fermée, c'est très différent. » Alors on y va? Je montai l'escalier en martelant chaque marche, David sur les talons. J'entendis le bruit du verrou de ma chambre se refermer sur moi. Je vociférais et pleurais de façon pathétique comme un bébé. À travers le mur, j'entendis Finn me crier de la boucler. J'appelai ma mère, mais elle ne vint pas. Personne ne vint. Ce soir-là, mon visage stuméfié par les coups de David me faisait mal. Et la faim me torturait. Je ne parvins pas à dormir et passai la nuit à regarder les nuages défiler devant la lune, les silhouettes sombres des oiseaux perchés dans les arbres, à écouter les moindres bruissements de la maison. Je pense que dans la semaine qui suivit, je devins un peu fou. Je grattai les murs avec mes ongles jusqu'à en saigner. Je frappai ma tête contre le sol. J'émettais des grognements d'animaux. Je vis des apparitions.
David s'imaginait probablement que j'allais sortir de ma semaine d'isolement terrassé et prêt à demander pardon. Ce ne fut pas le cas. Quand ma porte fut finalement déverrouillée 7 jours plus tard et que je fus autorisé à circuler dans la maison, je ne me sentais pas vaincu. J'étais consumé par la colère et le désir de vengeance. Cette fois, j'allais en finir avec David. Mais en recouvrant mon simulacre de liberté, je remarquai que quelque chose d'autre flottait dans l'air. Un grand secret se déplaçait dans la maison entre les rayons du soleil, avec les particules de poussière, et se coinçait dans les toiles d'araignée au plafond des pièces. En m'asseyant à la table pour prendre le petit déjeuner le premier matin, je posai la question à Finn. « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tout le monde est bizarre ?»«
On n'est pas tout le temps comme ça, » répondit-il en haussant les épaules.
« Non, c'est pire que d'habitude. Une catastrophe se prépare. » À ce moment-là, Finn était déjà tombé malade, c'était évident. Sa peau, autrefois lisse et sans défaut, était désormais grise et sèche. Ses cheveux, devenus gras, pendaient lourdement d'un côté de son visage. Et son parfum avait changé. Il s'était chargé de notes aigres. J'avais fait part de mes inquiétudes à Birdie.
« Tu ne trouves pas que Finn a l'air malade ?»«
Pas du tout, » avait-elle rétorqué d'un ton guindé. « Il devrait simplement faire plus d'exercice. » À travers la porte de la salle de sport, j'entendais son père l'inciter à se surpasser.
« Allez, tu peux le faire. En arrière, maintenant en arrière. Allez, mets-y un peu du tien. »
Quand il sortait de ses séances, Finn paraissait épuisé. Il montait lentement l'escalier, comme si chaque marche le faisait atrocement souffrir.
« Tu devrais venir au jardin avec moi. Ça te ferait du bien de prendre l'air. »«
Je ne vais nulle part avec toi. »
« Pas forcément avec moi. Tu devrais aller dehors. »«
Tu ne vois pas que rien dans cette baraque ne peut m'aider. La seule chose qui me ferait du bien, ce serait de dégager d'ici. »« Il faut que je parte, » m'avait-il confié en plantant ses yeux dans les miens. « Le plus vite possible. »
J'avais l'impression qu'après mon père, ma mère et Finn, la maison aussi s'éteignait. Justin nous avait abandonnés. Le bébé était mort. Nous n'avions plus rien à faire ici. Un après-midi, j'entendis un éclat de rire qui provenait du rez-de-chaussée. Je me penchai dans l'escalier et je vis David et Birdie sortir de la salle de sport. Ils rayonnaient de santé. David passa son bras autour des épaules de Birdie et l'attira contre lui. Il l'embrassa sur la bouche avec un répugnant bruit de succion. C'est à ce moment-là que je compris. C'était eux qui, comme des vampires, absorbaient toute l'énergie de la maison, son amour, sa vitalité, sa bonté. Ils gardaient tout pour eux et festoyaient sur nos corps et nos esprits brisés. J'observais les murs nus de la maison, là où des tableaux étaient autrefois accrochés, les coins vides où de beaux meubles se trouvaient avant leur arrivée. Je me souvenais des lustres qui reflétaient la lumière du soleil, du cuivre, de l'argent, de l'or qui brillait dans chaque pièce, de la garde-robe de ma mère, de ses robes de couturier, de ses sacs à main, des bagues qu'elle arborait fièrement, des boucles d'oreilles ornées de diamants et de saphirs. Tout avait disparu. Tout avait prétendument été donné à de bonnes œuvres pour aider les pauvres. J'essayais d'estimer la valeur de ce qui avait disparu. Probablement des milliers de livres, des dizaines de milliers. Puis je reportais mon attention vers David, avec Birdie dans ses bras, vers ces deux tyrans si libres, détachés du drame qui se jouait dans la maison. Voici ce qui me traversa l'esprit.
« Tu n'es pas un messie, un gourou ni un dieu, David Thompson. Tu n'es pas un philanthrope, pas un homme bon. Tu n'es pas un sage. Tu es un criminel. Tu es venu chez moi et tu nous as dépouillés. Tu n'as aucune compassion. Si tu en avais, tu serais assis aux côtés de ma mère qui pleure la mort de votre bébé. Tu chercherais à tirer mon père de l'enfer dans lequel il est enfermé. Tu emmènerais ton fils chez le médecin. Tu ne serais pas en train de badiner avec Birdie. Tu serais peiné par le malheur de ceux qui t'entourent. Et puisque tu n'as pas de compassion, David Thompson, tu n'as certainement pas donné notre argent aux pauvres. Tu l'as gardé pour toi, dans cette planque dont Finn m'avait parlé. Alors où est-il, notre argent? Et qu'as-tu l'intention d'en faire, au juste?